13h10, en temps universel, l'heure du journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Mayeul de Charon.
Bonjour Clémentine, bonjour à tous. Presque une semaine après le séisme, nous serons en Haïti pour faire le point sur la situation et l'organisation de l'aide humanitaire. Les vétérans américains de la guerre d'Afghanistan, sidérés après le retour au pouvoir des talibans et inquiets pour leurs alliés afghans, nous l'entendrons. En Argentine, les femmes sont de plus en plus nombreuses dans le secteur de la construction, deux fois plus qu'il y a 20 ans au moins. Reportage à suivre. Et le journal de la première est présenté par Benoît Ferrand. Bonjour.
Bonjour Mayel.
Le CHU de Guadeloupe a besoin de renforts.
Oui, face à la vague qui déferle, le directeur du CHU de Guadeloupe a dû se résoudre à faire ce que son homologue martiniquais a déjà fait, demander à tout le personnel de revenir sans délai.
Merci Benoît, on vous retrouve dans quelques minutes.
L'écaille, 106.9 FM.
Presque une semaine après le séisme qui a ravagé le sud-ouest d'Haïti, les efforts pour venir au secours des sinistrés s'accélèrent. Plus de 12 000 personnes ont été blessées dans la catastrophe qui a tué plus de 2 200 habitants. 300 personnes sont toujours portées disparues. Nous sommes avec Amélie Baron, notre correspondante à Haïti. Quel est l'état des lieux dans les zones sinistrées ?
5 jours après le séisme, les blessés sont encore très nombreux dans les quelques hôpitaux opérationnels de la zone affectée qui fonctionnent au mieux sans avoir forcément tout le matériel nécessaire pour gérer cet important afflux de patients. Du renfort en personnel et en intrants arrive de façon plus conséquente ces 2 derniers jours et surtout les évacuations des personnes dans les conditions les plus critiques continuent, notamment via les hélicoptères des gardes-côtes américains. Un point urgent au-delà de cette crise médicale. Hier après-midi, une situation inquiétante s'est développée à l'entrée de Jérémy, le pont suspendu sur la rivière Grand'Anse, le pont du Marais estimé, a été fermé à la circulation. Déjà depuis le séisme de samedi, les plus gros camions ne pouvaient pas traverser, mais hier, à cause d'un potentiel risque d'effondrement, seuls les motos et les piétons peuvent maintenant passer. Les premières alertes sur la fragilité de ce pont ô combien stratégique à cause de son délabrement remontent à 2017, mais aucun travaux de renforcement n'a été réalisé. Et donc aujourd'hui, l'unique route d'accès à Jérémy et à la côte ouest du département de la Grand'Anse est compromis.
La cheminée de l'aide humanitaire est justement un défi logistique qui paraît temporairement compromis avec la voie routière pour Jérémy, mais le transport est aussi sous tension depuis la capitale Port-au-Prince.
Plusieurs convois d'aide humanitaire sont déjà partis de la capitale en direction du sud. Plus d'une dizaine de camions remplis de matériel sous la gestion de la protection civile avec l'appui des acteurs humanitaires internationaux. Des convois par la route et c'est un bon signe car cela signifie que la zone sous contrôle des gangs à la sortie ouest de Port-au-Prince est, on peut dire, stable, franchissable. Mais étant donné que cet axe était quasiment fermé depuis le 1er juin, cette trêve informelle est bienvenue pour les riverains. Ajoutée à l'irruption de cette crise humanitaire dans le sud-ouest, cela a suscité une recrudescence incroyable de circulation. Et alors que la semaine dernière, la zone de Martissant était totalement déserte, eh bien aujourd'hui, cette sortie ouest de la capitale est le plus souvent paralysée par les embouteillages.
Et l'élan de solidarité vers le sud-ouest est conséquent, mais la protection civile voudrait que l'aide soit gérée avec ordre pour qu'elle soit plus efficace.
Nombreux sont les Haïtiens de la capitale comme de la moitié nord du pays à vouloir aider leurs compatriotes. Certains organisent des camions, d'autres plus simplement remplissent leurs coffres de voitures et prennent la route vers le sud. Chacun va apporter de l'aide directement à ses proches affectés et une telle solidarité fait à raison la fierté des Haïtiens car à chaque catastrophe, ils sont les premiers à être sur le terrain, à soutenir ceux qu'ils croisent parfois même sans les connaître. Mais pour ce qui est de l'aide plus conséquente, celle des ONG et des partenaires internationaux, définitivement, les autorités haïtiennes ne veulent pas voir se répéter le chaos de 2010, quand après le séisme, les humanitaires étrangers, certains professionnels et d'autres ne sachant absolument pas comment s'y prendre, eh bien faisaient tout ce qu'ils voulaient, où ils voulaient. Cela avait causé beaucoup de frustration, car il y a eu quantité de doublons dans les distributions d'aide, et donc forcément il y avait des personnes sinistrées qui, parce qu'elles vivaient dans des zones plus reculées, n'avaient jamais bénéficié des programmes de soutien. Aujourd'hui donc, la protection civile haïtienne haïtienne requiert à toute organisation de déclarer ses projets d'aide, des projets qui devront nécessairement être visés par les directions départementales. C'est un processus qui paraît très centralisé, certains s'en plaignent en avançant que cela ralentit l'aide, mais c'est une façon d'être sûr que les zones prioritaires sont ciblées en urgence, et ça sera, espérons-le, une façon aussi d'obtenir une transparence dans la gestion de l'aide financière, car à chaque catastrophe, les Haïtiens le déplorent et le répètent, les risques de corruption et de détournement de fonds sont bien là.
Merci Amélie Baron. Et on vient de l'entendre, le gouvernement haïtien veut donc éviter les erreurs du passé. Les organisations devront donc désormais déclarer leur projet d'aide. On vient de l'entendre, les précisions de Frédérica Séché de l'Organisation internationale des migrations.
Ça, c'est la stratégie du gouvernement pour ne pas répéter ce que nous avons de 2010. Donc, il n'y aura pas une distribution de tentes, il n'y aura pas la création de camps, mais on adoptera plutôt des stratégies pour permettre aux personnes de réparer, de reconstruire leur maison. On le sait très bien, il y a des ONG qui débarquent, il arrive même avec des hélicoptères privés dans certaines zones du pays, et le gouvernement n'est pas au courant. Donc, il y a eu une rencontre avec le Premier ministre il y a 2 jours. Il y avait une entente avec les acteurs humanitaires, les ambassadeurs, sur comment gérer l'aide de l'extérieur. Donc, tout doit passer et être centralisé par la DGPP.
Frédérica Séché, la revue de presse avec vous. Arim Lipald, bonjour.
Bonjour Mayel, bonjour à tous.
Et apprendre des erreurs commises dans l'organisation de l'aide après le séisme de 2010, c'est aussi le sujet de l'éditorial du journal haïtien Le Nouvelliste.
Oui, le journal met en garde contre ce qu'il appelle des gadgets qui, à moyen terme, ne font qu'empirer en fait la situation en Haïti. Un exemple cité par Le Nouvelliste est la distribution d'eau après le séisme de 2010, rappelle le journal. Pour des millions de dollars, des millions de bouteilles d'eau ont été achetées. Seulement voilà, écrit le journal, aucun responsable haïtien n'a osé dire aux généreux donateurs de l'époque que les Haïtiens avaient accès à l'eau avant le séisme et que les capacités de production ou de distribution du précieux liquide n'avaient pas été très affectées par le tremblement de terre. Ce qu'il nous fallait à l'époque, poursuit le Nouvelliste, c'était de renforcer les capacités existantes. Cette mauvaise gestion a été fatale selon le journal, car 11 ans après, les régions qui manquaient d'eau en 2010, eh bien, elles en manquent toujours. Le Nouvelliste suggère donc à ne pas refaire les mêmes erreurs du passé, à mettre en place dans ces régions sinistrées un système de distribution d'eau qui fonctionne et d'éviter ce que le journal appelle la politique de la bouteille d'eau.
Merci Arim, et nous prenons la direction des États-Unis où la nouvelle du retour des talibans au pouvoir dimanche a été un choc. Les vétérans américains qui ont combattu en Afghanistan sont à la fois sidérés, résignés et inquiets pour leurs alliés afghans abandonnés sur place et leurs compatriotes rentrés aux États-Unis. Le reportage de Sofia Katsenekova.
Robert Couture est un vétéran américain. Il a été déployé en Afghanistan à 2 reprises entre 2007 et 2010. Et comme beaucoup de vétérans, il s'est senti impuissant face à l'effondrement rapide et chaotique des forces afghanes.
C'est frustrant. Beaucoup de vétérans et moi-même, nous avons perdu des amis en Afghanistan. C'est décevant de voir le pays sous le contrôle des talibans après 20 ans d'efforts. Mais c'est surtout une tragédie pour le peuple afghan.
Inquiétude pour de nombreux vétérans, le sort des interprètes et autres personnels afghans qui ont œuvré aux côtés des troupes américaines. 2 interprètes et bons amis de Robert Couture ont réussi à obtenir des visas américains, mais ce n'est pas le cas pour leurs familles restées au pays.
Mes amis afghans sont très discrets. La plupart ne s'expriment pas. Je pense que c'est par prudence, car beaucoup ont toujours leurs proches en Afghanistan qui sont désormais en danger à cause de leur travail.
Au moins 18 000 ressortissants afghans attendent toujours leur visa pour s'installer aux États-Unis, selon le département d'État américain. Les autorités assurent que 2 000 demandeurs d'asile ont été évacués depuis la mi-juillet. L'administration dit se préparer à en évacuer 800 autres dans les prochains jours.
Sofia Katsenkova pour RFI. Direction Cuba, maintenant à Rime, où une nouvelle loi sanctionne les opposants qui se servent des réseaux sociaux pour critiquer le gouvernement.
Oui, c'est-à-dire dans le Miami Herald, pour le journal conservateur et résolument anticastriste, c'est une méthode destinée à, je cite, « criminaliser ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique officielle et qui le font savoir ». Dans une période où les Cubains ont un grand besoin d'avoir accès aux informations les plus diverses, eh bien la seule chose que le gouvernement de Miguel Díaz-Canel fait est de s'attaquer à la liberté d'expression, écrit le Miami Herald.
En fait, selon la nouvelle loi, ceux qui utilisent Internet pour s'opposer au régime seront poursuivis comme des cyberterroristes.
Exactement. Le texte autorise aussi le gouvernement de contrôler les contenus publiés sur les réseaux sociaux. En fait, ce qui dérange le gouvernement, ce sont les commentaires ou les images qui vont à l'encontre du discours officiel, écrit le journal. Comme cette femme qui a fondu en larmes lors de l'enterrement d'un proche décédé du Covid-19 et qui a été embarqué dans une voiture de police qui l'a conduit directement en prison. C'est ce que rapporte le Miami Herald. Le journal publie aussi une vidéo réalisée par plusieurs médecins cubains qui affirment que l'effondrement du système de santé n'est pas de leur responsabilité, une réponse aux propos des autorités qui avaient mis en doute l'efficacité des soins apportés aux patients cubains atteints du Covid.
Et la pandémie et la crainte d'une quatrième vague, c'est aussi à la une de la presse brésilienne.
Oui, exactement. Une quatrième vague qui affecterait notamment les enfants, selon les chercheurs brésiliens interviewés par le journal en direct Intercept. Le site d'information rappelle que le taux de mortalité des enfants brésiliens atteints du Covid-19 est déjà l'un des plus élevés au monde. Les chercheurs prédisent pour les semaines qui viennent une forte hausse de contamination chez les enfants et les adolescents, à l'instar de ce qui se passe déjà aux États-Unis. D'ailleurs, la presse locale dans l'État de l'Alabama rapporte ce matin le décès d'un adolescent de 17 ans mort du Covid-19.
Merci, Arim Lipold.
RFI, Las Voces del Mundo.
RFI, il est 15h21 à Buenos Aires et nous prenons donc la direction de l'Argentine. À présent, on retrouve de plus en plus de femmes dans un secteur où elles étaient historiquement peu nombreuses, celui de la construction. Même si elles ne représentent encore que 5% des effectifs, on compte au moins deux fois plus de femmes qu'au début des années 2000. Notre correspondant Théo Conscience s'est rendu sur un chantier sans aucun homme.
Sur le chantier de rénovation d'un vieux centre culturel en banlieue de Buenos Aires, le marteau rotatif s'interrompt et le débat s'engage. Où doit aller la porte de la salle de bain? Dans quel sens installer la douche? Et les toilettes? Ici ou là? Chose rare sur les chantiers en Argentine, dans cette discussion, il n'y a aucun homme.
Mon nom sur ma carte d'identité est Eva, mais en ce moment, je préfère qu'on m'appelle Evite.
Ici, on ne trouve que des femmes ou des personnes non-binaires, comme Evite, qui ne s'identifient ni au genre masculin, ni au féminin.
Nous sommes des personnes qui ne sommes pas à l'aise avec la place qui nous a été assignée dans le monde et nous voulons le changer au travers de la construction.
Le collectif Déconstruction Dissidente est composé de 8 femmes et membres de la diversité sexuelle ouvrière du bâtiment. La raison d'être de ce groupe est résumée par le jeu de mots de son nom. Construire des maisons tout en déconstruisant le machisme en partant d'un constat simple.
Le secteur du bâtiment est monopolisé par les hommes.
Mais leur réflexion ne se limite pas à leur secteur d'activité. L'objectif est de remettre en question la division genrée des rôles sociaux.
Cette conception du genre attribue des caractéristiques sociales distinctes. Les plus importantes sont, pour l'homme, la capacité productive et pour la femme, la fonction reproductive et de soins.
Dan, étudiante en sciences sociales et membre du collectif depuis 4 ans, nous fait faire un tour du chantier.
Voilà.
Toutes les personnes qui travaillent sur le site ont leur mot à dire dans les décisions qui sont prises. Ici, pas de hiérarchie, le modèle c'est l'autogestion.
Nous pensons que l'autogestion est vitale pour déconstruire les hiérarchies et pour ne pas dépendre de capitaux économiques, d'entreprises ou d'autres institutions qui nous font croire que nous avons besoin d'elles.
La conséquence, c'est que personne sur le chantier n'a de tâche assignée, nous explique Anaï, une membre du collectif.
Si nous vamos,
nous faisons en fonction des désirs et des exigences du corps de chacune. On alterne, mais l'idée est que tout le monde puisse faire toutes les tâches.
De par sa formation d'architecte, Evite a un rôle clé dans les prises de décision. Mais chacune apporte son expérience et ses connaissances pour créer ce qu'elles appellent un savoir partagé, explique Barbara, que tout le monde ici surnomme Barbie.
Par exemple, le baño cuando llegaste.
Ce qui se passait dans la salle de bain quand vous êtes arrivé est un bon exemple. Ce n'est pas « voilà ce qu'il faut faire », c'est plus « alors qu'est-ce qu'on en pense ?» Peut-être qu'il y a une manière classique de faire avec la douche ici et les toilettes là, mais c'est quelque chose de générique. Donc on construit notre savoir en fonction de nos besoins. Parfois on fait des recherches, parfois certaines ont déjà des connaissances. Evite apporte quelque chose, Dan apporte autre chose. C'est un savoir qui se construit au fur et à mesure.
Au-delà du patriarcat, l'objectif du collectif Déconstruction Dissidente est de s'attaquer à toutes les formes de domination de la société capitaliste et de la transformer par le bas, chantier par chantier. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Et vous pouvez réécouter ce reportage sur le podcast Journal d'Haïti et des Amériques sur RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Le journal de l'Outre-mer présenté par Benoît Ferrand. Benoît, après celui de la Martinique, c'est au tour du CHU de la Guadeloupe de battre le rappel de son personnel.
Eh oui, face à la vague qui déferle, vague de contamination et donc, hélas, vague d'hospitalisation, le directeur du CHU, Gérard Cotelon, a dû se résoudre à faire ce que son homologue martiniquais a déjà fait, demander à tout le personnel de revenir sans délai à son poste de travail. Claudia Ledésert.
Un rappel inédit du personnel administratif, technique ou soignant, en congé, indispensable pour faire face à l'afflux de malades. Gérard Cotelon, directeur général du CHU de Guadeloupe.
Le personnel est fatigué, la crise dure. On essaie de faire ça intelligemment, de permettre aux personnes de prendre une semaine, 15 jours de vacances. Mais là, la situation est vraiment trop grave et j'ai absolument besoin que tout le monde regagne son poste.
Un rappel qui concerne près d'un tiers des personnels du CHU. Certains n'étaient en congé que depuis lundi. Un retour difficile pour beaucoup. Certains n'ont quasiment pas eu de congé en un an. Des retours que la direction entend encadrer du mieux possible. Cédric Zoledzi, directeur général adjoint du CHU.
Bien sûr, ça demande un peu d'explication, un peu d'échange, parce que ça se fait dans un contexte de fatigue, parfois d'épuisement professionnel, un sentiment aussi d'injustice, mais en fait tout le monde est concerné, donc la mesure elle est équitable pour tout un chacun.
D'après la direction, l'ensemble du personnel du CHU sera en poste d'ici lundi.
On reste à l'hôpital, mais cette fois-ci en Martinique, l'hôpital où 9 bébés ont été hospitalisés pour cause de Covid-19. 4 de ces bébés étant même placés en réanimation. Olivier Féchel est pédiatre et réanimateur néonatal à la MFE, la Maison de la Femme et de l'Enfant, à Fort-de-France.
Pour l'instant, on n'a pas vu de cas extrêmement graves. Tout a pu être géré sans trop de difficultés. C'est toujours très angoissant pour des parents hein, quand on doit hospitaliser un enfant, mais c'est resté tout à fait gérable. Néanmoins, on n'a pas tout vu. Je suis inquiet parce qu'on ne sait pas où on va. On a actuellement également une épidémie de prématurité. C'est-à-dire que les mamans enceintes font des formes graves du Covid. Ça, c'était connu. Par contre, ce qui n'était pas connu, c'est qu'elles fassent des formes tellement graves qu'on soit obligé de faire une césarienne pour les sauver, sortir l'enfant et pouvoir avoir une chance de survie. Hein, on en est là. Les enfants qui naissent, ce sont des extrêmes prématurés. Donc là aussi, on est inquiet. Et surtout, ce qu'on voit, c'est une augmentation brutale de ces entrées. Bah là, on en est à 5 enfants en un peu plus d'une semaine. En réanimation néonatale, on a dépassé nos limites. On ne sait pas très bien comment on va gérer. Si ça continue, on ne va pas pouvoir prendre en charge les enfants.
Sachez enfin que plus de 300 professionnels de santé, tous bien sûr volontaires, s'envolent en ce moment même de l'aéroport d'Orly à Paris, bien sûr, pour venir renforcer les équipes de la Martinique et de la Guadeloupe. Bon après-midi, bon week-end de Mayeul, à lundi.
Merci, bon week-end et à lundi, Benoît Ferrand. Il est 15h28 à Paris, 13h28 temps universel. C'est la fin de cette édition du journal d'Haïti et des Amériques. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur rfi.fr. Nous nous retrouvons lundi prochain.
RFI, la sélection du mois.
Fale Nyoke et Ghost Culture.
Ah,
Nicolas Ajar et Alice Etty.
RFI. La marche du monde.